RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story aujourd'hui. Charles Consigny, Bruno Poncé, Barbara Lefebvre. C'est la deuxième heure des grandes gueules qui commence à 10h30. On reviendra sur... Ça a été houleux à l'Assemblée nationale hier à propos, vous savez, de la présomption d'usage de légitime défense des armes par les forces de l'ordre. Bon nombre de personnes, d'associations estiment que c'est un permis de tuer qui est donné à la police. Vous venez en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National, sera avec nous pour le Face aux GG à 11h, ce qui permettra de revenir sur la stratégie de Marine Le Pen, condamnée hier en appel, mais elle se pourvoit en cassation et elle est candidate à l'élection présidentielle. Et le premier déplacement aujourd'hui avec Jordan Bardella, qui sera son premier ministre, elle l'a dit répété. Ce sont les caméras qui vont le suivre, ça va être le fait politique du jour. En attendant, je vous propose de discuter de la canicule et de la réquisition des lieux climatisés. L'idée, la logique qui anime le sénateur communiste Yann Brossa, c'est de dire... En fait, il faut mieux partager les lieux de fraîcheur, les lieux climatisés, parce que nous ne sommes pas tous égaux devant la fraîcheur ou devant la chaleur.
Oui, alors il y avait le congé climatique proposé par l'écologiste Marine Tondelier. Là, il y a la réquisition climatique. Proposé par le sénateur communiste de Paris, Yann Brossa, qui va déposer une proposition de loi visant à instaurer donc cette réquisition. En cas de vigilance orange ou rouge, les préfets pourraient réquisitionner les lieux privés climatisés inoccupés, centres commerciaux, centres de congrès, immeubles du bureau, afin d'y accueillir la population. On a besoin de mieux partager les lieux de fraîcheur. Alors c'est amusant, venant de Yann Brossa, élu parisien, parce qu'il fait partie de ceux qui ont refusé ces dernières années de climatiser les lieux qui sont sous la responsabilité de la mairie, et notamment les écoles. Donc en gros, il veut climatiser les endroits réquisitionner les endroits climatisés, alors que lui-même était contre cela. C'est une logique assez communiste. Oui. Si le secteur privé investit dans des équipements efficaces, eh bien, il faut le réquisitionner pour le bien public. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ah non, mais c'est vraiment l'URSS. Ah non, mais ces gens ne doutent de rien.
C'est la soviétisation de la clim.
Ah, mais complètement. Et mais ils ne doutent de rien. Le type vient sur tous les plateaux t'expliquer, faut pas la clim, faut pas la clim, faut pas la clim. Et il te dit, on va réquisitionner les centres commerciaux. Et donc, on va allonger les personnes, on va les faire dormir dans les rayons d'Auchan et de Leclerc. Non, mais, ça va bien. Moi, je pense qu'il faudrait surtout les accueillir à la mairie de Paris, parce que je sais pas pourquoi. J'ai comme le sentiment que ça doit être climatisé à la mairie
Alors,
de Paris.
Il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit les mairies d'arrondissement de gauche avec des clims. Et on le voit parce que tu sais, les tuyaux sortent des fenêtres.
Donc, moi, ce que je propose,
c'est que Monsieur
Brossa accueille tous les gens qu'il veut accueillir, parce que qui va aller... Est-ce que vous pensez vraiment que quand on a, même si on a très chaud sous les toits, et ça, je sais à quel point c'est un cauchemar, est-ce que vous pensez que vous allez aller passer votre nuit avec un sac de couchage dans les centres commerciaux?
Moi, je connais des gens à Paris qui me disent, dans la journée, je vais dans les centres commerciaux prendre un peu de frais, en fait.
Oui, mais lui, il veut te les réquisitionner.
Et tu restes une heure et puis tu ressors.
Oui, mais si tu réquisitionnes, ça veut dire que c'est pour y faire dormir les gens, pour y accueillir les familles. Bon, il va faire ça comment? Et puis, c'est un bien privé. De quel droit ces gens-là réquisitionnent des biens privés? Non, mais ils sont sur une autre planète. De toute façon, les communistes, pour faire parler d'eux et dire n'importe quoi, c'est un bien privé. Ça s'appellerait du squat. Monsieur Brossa n'a qu'à s'occuper des lieux publics, de ces mairies climatisées et de fiche la paix aux propriétaires et aux bailleurs privés.
Alors, Charles.
Bonne celle-là.
Je pense que de toute façon, ça ne passera pas. Donc, ça reste à l'état purement. C'est de la com, en fait, de la part du sénateur Brossa. Je trouve ça au surplus idiot, parce que le sujet n'est pas de réquisitionner je ne sais quel magasin ou je ne sais quel bureau. D'ailleurs, je vois pas très bien ce qu'il espère réquisitionner, parce que a priori un lieu qui est climatisé, c'est un lieu qui est utilisé par des gens qui en ont besoin d'une manière ou d'une autre. Alors j'imagine que dans son fantasme, il voudrait absolument pouvoir mettre les gens dans les hôtels de luxe à Paris, par exemple. J'imagine que c'est à ce genre de choses qu'il rêve, ou dans les bureaux de je ne sais quelle méchante banque, ou ce genre de fadaise. Mais pour moi, le vrai sujet, c'est de permettre aux gens d'habiter chez eux. C'est ça le vrai sujet. Donc d'avoir des logements soit climatisés, soit avec des volets. Sachez par exemple que la mairie de Paris est extrêmement sourcilleuse en matière de volets et qu'il faut 3 autorisations administratives pour poser des volets sur sa fenêtre à Paris. Et je suis sûr que Monsieur Brossat est favorable à ce qu'il y ait régime d'autorisation.
On va plutôt assouplir ce genre de normes.
Donc voilà, vous voyez, je souffle parce que je pense que il fait de la com pure. Et c'est une idée sur sans lendemain, sujet. Ça n'est pas constructif.
Sur un vrai sujet. Alors qu'on vit une troisième canicule. Et d'ailleurs, selon les spécialistes, on est peut-être en train de vivre la semaine la plus chaude jamais enregistrée en France. Donc c'est encore plus que les deux précédentes canicules. Parce que là, les derniers modèles sont assez alarmistes. Ça devrait se prolonger dès la semaine prochaine, avec les journées les plus chaudes, lundi, mardi, mercredi, jeudi prochain.
Un autre sujet qui me paraît quand même important, c'est comment ça se fait que les bâtiments.
Il y a encore des communistes en France.
D'abord ça, mais ensuite que des bâtiments qu'on a construits.
Sont peut-être congelés.
Il y a 2 siècles ou davantage. Il y a 1-2 siècles ou davantage. Nous protègent mieux de la chaleur et du froid d'ailleurs que les bâtiments construits depuis 100 ans ou depuis 50 ans. Ça, je trouve que c'est une vraie question parce que observerais que les drames.
Ça s'appelle le capitalisme.
Les drames qui ont eu lieu ces derniers temps avec des gens qui sont morts chez eux de chaud, de déshydratation, etc.
Il y a des spécialistes.
C'était très souvent dans des immeubles modernes.
Bruno, il y a des spécialistes qui disent, en fait, jusqu'à présent, on a lutté contre les passoires thermiques. On voulait que les habitations soient effectivement renforcées, donc pour pas laisser passer l'air, pour qu'on puisse avoir chaud l'hiver. Or, on s'aperçoit que l'enjeu, c'est plus avoir chaud l'hiver, puisque de toute façon, les hivers sont de plus en plus doux, mais c'est d'avoir froid l'hiver, l'été, enfin en tout cas,
l'avoir
frais.
Donc, en plus, c'est très mauvais les maisons trop isolées.
En fait, on a construit des maisons trop isolées. Alors certes, ce sont plus des passoires thermiques, mais ce sont des bouilloires thermiques. Et il y a des spécialistes qui sont en train de dire, on a fait une erreur peut-être et que il faut revoir la façon de construire et de rénover la façon. Rénovation.
Je te rappelle quand même que dans les années 80, la grande mode c'était les maisons Bouygues ou les maisons Miquit, qui étaient des maisons avec des plaques de fibre au ciment là que tu mettais. Et ça, je peux dire de placo. Ça veut dire que comme isolation et comme bouilloire thermique, tu ne vas pas être
mal. Mais souviens-toi, Bruno, il fallait construire plein sud avec des grands baies vitrées pour profiter au maximum de la chaleur extérieure. Or, aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va construire plein nord avec des petites fenêtres.
Et puis, il y avait aussi une demande de sortir un peu de Paris, d'avoir son pavillon, un petit jardin.
Et avec le soleil plein pot sur le salon.
Le soleil, tu pouvais prendre un crédit, tu remboursais ta maison en 15 ans. Enfin, tu vois, c'était.
Après, sur l'idée de Brossat, je trouve que Brossat, là, il fait de la politique. Qui tombe pire qu'à côté, parce qu'en fait, regarde, il y a 2 catégories de population, ceux qui travaillent, celui qui part tôt le matin de chez lui, qui a passé une nuit dans sa bouilloire, qui prend les transports, qui sont pas tous climatisés. Aujourd'hui, moi, le métro, je veux dire, je le prends tous les jours, c'est quand même pas la clim. Moi, je prends la 13. Hein. Voilà, je veux dire, c'est quand même le carnage là-dedans. Tu vas au taf, où des fois, où le mec travaille dehors et tout. Donc là, il a chaud après. Le soir, il rentre chez lui. Cette personne-là, comment tu la mets après dans un supermarché toute la nuit? Il va pas aller dormir dans un supermarché. Donc ça, c'est une grosse connerie. Deuxièmement, après, t'as les anciens qui sont chez eux, qui malheureusement, là, on vient d'avoir des milliers de morts dernièrement.
Avec à domicile.
Des gens qui ont, à mon avis, qui ont été abandonnés plus ou moins par leur famille et qui sont morts comme des animaux, pire que tout chez eux. Et ceux-là, tu fais quoi? Tu vas les chercher? C'est des gens qui, peut-être, qui ont des problèmes pour se mouvoir. Tu vas les chercher, tu les emmènes contraints et forcés dans un supermarché ou dans je ne sais quoi. Enfin, en fait, c'est débile. En fait, il ferait mieux de réfléchir. Et aujourd'hui, il faut commencer maintenant à déjà refaire l'urbanisme de grandes villes, donc c'est-à-dire revégétaliser toutes les grandes villes françaises. Je trouve que Paris, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, Paris, c'est plutôt le contraire. Moi, j'habitais une ville à Nières où il y a très peu de parcs, il y a très peu de jardins, et il y avait des arbres à côté de la ligne de chemin de fer. Ils les ont battus pour faire passer la ligne 15. Les gens se sont battus pour en garder un peu. Ils en ont gardé 1/3, je crois. Mais bon, donc en fait, on est vraiment dans un inversement de tous les projets actuels qu'on avait. Il faut urbaniser. En fait, là, j'ai vu dernièrement une expérience où ils ont peint en blanc avec une peinture qui rejette la lumière, qui fait que les gens, ils ont gagné 5 à 10 degrés. Il y a ça, il y a végétaliser
ça,
les toits.
Ça dans tout le sud.
Depuis le temps qu'on dit qu'il faut peindre le les routes en blanc.
Oui, à Paris, chaud, tu peux pas
ça,
le faire.
Ouais, mais on le fait pas.
Bah, parce qu'à Paris, les bâtiments de France et tout ça, ils vont dire non. Parce que
oui, mais à un moment donné, tu adaptes les bâtiments de France. Excuse-moi. Les toitures peintes en blanc et les rues, les sols, au lieu de mettre du goudron, de l'asphalte noir qui aspire et qui retient la chaleur, tu peins en blanc. Enfin, c'est quand même pas compliqué. Oui, mais alors après, pendant ces derniers temps, il fallait peindre toutes les fenêtres au blanc de Meudon. Là, ils étaient tous fascinés par le blanc de Meudon, notamment d'ailleurs tous les communistes, etc. Enfin, c'était la ruée sur le blanc de Meudon. On va pas badigeonner toutes les fenêtres de blanc de Meudon. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une adaptation.
Tu vois.
Et une... Non, mais moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de percer un immeuble haussmannien. Moi, j'habite Versailles. Je peux vous dire, quand vous êtes à Versailles, autour du...
De
toute façon, tu ne peux pas. Tu as l'architecte des bâtiments de France. Même pour changer le carrelage de ton deux pièces au fin fond d'une cour, il suffit que tu sois à 10 mètres de la chambre du roi, alors que personne va aller voir le fond de ta salle de bain, on te demande de faire les bâtiments des architectes de France. Donc,
mais tu vois, c'est d'un
certain sens. Il va falloir assouplir toutes ces normes.
Il va falloir assouplir des normes.
La proposition d'Yann Brossat, c'est vraiment d'un cynisme absolu.
Exactement.
C'est un mépris des pauvres en leur disant je vous installe pas la clim pendant 3-4 heures, mais pendant 3-4 heures, on va vous emmener au centre commercial. Allez, montez dans la bétaillère, les pauvres, vous allez être au frais, puis après, on vous ramène. Mais on n'installe pas la clim.
C'est alors vraiment... qu'il y a un vrai débat sur ces morts à domicile quand même.
Non mais rien ne les cynise. Ce n'est jamais la honte qui les étouffe.
En fait, la société, elle abandonne ses vieux. Hein. Déjà, elle abandonne ses enfants. Et là, malheureusement,
non, elle les abandonne pas.
Non,
c'est
plein de petits vieux qu'on perd.
Oui, mais c'est la responsabilité aussi de chacun d'entre nous. L'État ne pourra pas tout. C'est-à-dire que l'État, que les collectivités gèrent les EHPAD. Ça va mieux dans les EHPAD. Il y a eu moins de morts cette fois-ci, donc on a quand même progressé. Mais les morts à domicile, pardon, c'est aussi la responsabilité des familles, des voisins.
Quand t'es dans un immeuble, tu sais qui habite où, hein.
Avant, oui,
tu vas voir les personnes âgées.
Dans les années 60-70, il y avait moins de divorces. Les familles, on habitait tous à un ou deux pâtés de maison. Tu vois, t'allais chercher le cousin. Et le cousin, il habitait même des fois dans le même immeuble ou le pâté de maison à côté. Aujourd'hui, malheureusement, les familles sont éclatées. Elles ont divorcé une fois, deux fois, trois fois. T'habites à 500 km, donc c'est différent.
Je suis désolé, je trouve qu'il faut qu'on change culturellement là-dessus. Moi, je trouve ça, à vrai dire, assez consternant qu'on ait à ce point. Atomiser la famille. Je veux dire, en Chine, par exemple, les gens culturellement vivent avec toutes les générations plus ou moins sous le même toit. C'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu. Et j'observe qu'en France, il y a des gens qui s'organisent pour ne pas trop s'éloigner de leurs aînés. Et il y en a d'autres où, en effet, on assiste à une espèce d'éclatement. Où il y a des centaines de kilomètres entre les uns et les autres. Bon, dans ce cas-là, on n'est pas une famille. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'être une famille.
D'accord.
Sauf si on a un
Guillaume en 32
heures. On peut se soucier de
ses voisins déjà. Voilà. Si on sait qu'il y a une personne âgée en face et on va le voir, enfin, c'est pas compliqué ça.
On a Guillaume.
On a Guillaume qui est là, qui nous appelle de la Marne. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous. Bonjour à tous.
Vous êtes président d'un centre de santé. C'est intéressant. Que pensez-vous de la proposition du sénateur Brossat, alors?
Alors, moi, je suis infirmier libéral et donc président d'un groupe qui porte effectivement des maisons de santé pluriprofessionnelles. Alors, le sénateur Brossat, moi, je trouve assez inconséquent et je dirais presque que ça en viendrait drôle. Quand les acteurs de la sphère publique n'ont pas fait ce qu'il fallait et qu'ils viennent ensuite se retourner vers des acteurs du privé qui, eux, ont fait ce qu'il fallait. Nous, par exemple, les actionnaires de notre groupe, ce sont les soignants qui y travaillent. Bah, nous, on a cassé notre tirelire quand on a construit nos bâtiments, on les a pensés, on les a travaillés et on les a climatisés, évidemment. Et aujourd'hui, alors, je me dis que le bon sens n'est pas perdu partout et je vais louer une fois de plus le bon sens des collectivités territoriales et des communes. Nous, par exemple, dans les communes dans lesquelles nos centres de santé sont implantés, on travaille avec les conseils municipaux pour permettre et accueillir dans nos salles de réunion, dans les espaces inoccupés, voire dans nos espaces d'attente, les personnes les plus fragiles. Donc je dirais qu'on n'a pas attendu la réquisition des derniers communistes français pour faire preuve de bon sens. Au-delà, évidemment, de tous les sujets que vous avez balayés sur la repenser l'urbanisme, et voilà. Mais moi, je suis toujours quand même un peu contrarié. Je suis un peu agacé par cette espèce d'inconséquence des élus peut-être depuis trop longtemps et sans activité. Et donc, peut-être sûrement couper de certaines réalités qui viennent ensuite, on va dire, s'approprier le travail des autres. Je trouve ça vraiment agaçant. Voilà,
mais ça va même plus loin, parce qu'effectivement, c'est bizarre de vouloir acquisitionner des bâtiments privés lorsque soi-même, on n'a pas fait le boulot dans les bâtiments publics. Mais ça va plus loin, puisque pendant des années, il y a eu un mouvement anti-clim.
Quand vous entendiez le maire de Paris ce week-end, moi je travaillais ce week-end, j'étais de gare. Ouais. À un moment donné, dans mes trajets, j'avais l'opportunité, j'ai écouté le maire de Paris qui était sur une autre antenne, je crois, mais qui expliquait qu'effectivement il était contre la clim, alors ce n'est sûrement pas évidemment la solution, ce n'est qu'une solution d'adaptation, ça on peut être d'accord. Néanmoins, se dire que on est contre la clim, je veux dire dans les écoles, voilà, et que derrière on se retrouve avec, si je ne m'abuse, Brossard, ils sont dans la même majorité municipale où ils l'étaient, et on a quelqu'un qui vient dire derrière, on va réquisitionner, on est sur un... Je sais pas si Charles est tombé dans les pommes, mais on est quand même
sur... Non, parce que je ne suis pas surpris. En plus, sans faire mon libéral à deux balles, la clim, elle est nécessaire à la fois pour protéger les gens, et pas seulement les gens fragiles, parce que vous avez vu qu'il y a eu des adolescents qui sont morts. Là, en France, des adolescents morts.
Pour nos professionnels, hein.
À cause de la chaleur, de la déshydratation, etc. Là, ces dernières semaines. Mais donc, non seulement c'est utile pour protéger les gens en période de canicule, mais en plus, si on ne veut pas devenir un pays du tiers-monde, moi je considère qu'on ne peut pas se satisfaire d'un pays qui s'arrête pendant plusieurs semaines parce qu'il fait trop chaud. Je crois que j'ai cité ici ce mot du fondateur de Singapour, tel que Singapour existe aujourd'hui. On lui a demandé quel était le secret de la réussite de Singapour. Il a répondu la climatisation. C'est parce qu'il a climatisé les buildings de Singapour qu'il a pu faire cet état extrêmement prospère dans cette région dont le climat était très hostile. Ça vaut aussi pour les Émirats arabes unis, et ça vaut en fait pour plein d'endroits du monde. La France peut pas se payer le luxe de s'arrêter une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, parce qu'il fait trop chaud.
Si, parce qu'on demande le congé climatique.
La France pense qu'elle peut, puisque apparemment six semaines de congé payé, le congé climatique et il est vrai qu'on ne peut pas vraiment.
Mais on travaille moins bien quand on a.
Mais bien sûr, on ne peut pas vraiment travailler.
Oui, vous ne arrêtez pas, vous, Guillaume. J'imagine.
On travaille au ralenti quand même.
La France du privé ne s'arrête pas. Nous,
du public non plus.
Je pense qu'il y a plein d'activités,
la boulangerie elle ferme pas
c'est même dangereux d'imaginer que, parce que les hôpitaux, on a beaucoup parlé des patients bien sûr, en disant on met des patients malades dans des chambres qui font 35 degrés, il y a pas de ventilo, il y a rien, mais les soignants aussi ils sont pas protégés puisqu'ils travaillent sous 35 degrés. Sincèrement, moi j'ai pas envie d'être opéré par un médecin qui toute la journée a sué et qui sera pas forcément très apte pour m'opérer.
Excuse-moi, à l'hôpital public, c'est 365 jours par an que les soignants ne sont pas protégés. Parce que s'il y a bien des gens qu'on utilise, que ce soit les aides-soignants, les médecins, les infirmiers qu'on utilise comme de la chair à canon, et les internes en médecine qu'on tue, parce que je vais vous dire, le taux de suicide chez les étudiants, les internes en médecine.
Ils sont en burn-out.
C'est le record européen.
C'est ça qui est dangereux.
Voilà. Oui. Et ça, c'est. Non, mais. Rappelons, on est en train, chaque fois qu'on est dans cette émission, je veux le dire, on fait le bilan à chaque fois, le bilan des 10 ans qui viennent de s'écouler.
Oui, alors
l'hôpital public en 2017 et l'hôpital public en 2026, c'est encore pire. Moi, je sais pas, il avait promis qu'il allait tout réparer, c'est la ruine totale. L'hôpital public aujourd'hui et les conditions de travail de nos hospitaliers, c'est encore pire qu'en 2017. On avait ici donné le GG de l'année à Interurgence, au collectif Interurgence. Oui. Je peux vous dire que le constat, il est encore pire aujourd'hui qu'il y a il y a 10 ans.
Dans tous les cas, ça vous fait réagir. Je remercie Guillaume d'avoir été avec nous. Merci Guillaume. À bientôt. Merci à vous Guillaume. Dans un instant, Jean-Marc, il est du côté du Loir-et-Cher. Jean-Marc qui veut réagir aussi. Réquisitionner les lieux climatisés, c'est la proposition du sénateur communiste Yann Brossa, ça vous fait beaucoup réagir. On vous donne encore la parole et puis ensuite on passera à la présomption d'usage des armes par les forces de l'ordre, la présomption de légitime défense, est-ce que c'est le permis de tuer? Vous pourrez réagir aussi au 32-16, il est 10h20.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. 1, 2, 3.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Charles Consigny. On prend quelques minutes encore pour évoquer la proposition du sénateur Brossa, sénateur communiste, qui veut la réquisition des lieux privés concernant la climatisation. Jean-Marc, bonjour. Ça vous fait beaucoup réagir au 32-16. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, Jean-Marc, alors?
Ah bah écoutez, je suis révolté. C'est comme si moi, qui habite une belle longère tourangelle, je prenais tous les lochards qui habitent autour de chez moi pour leur dire mettez-vous au frais. L'idée est bonne en soi, mais effectivement, comme le disait Barbara ou même Charles sur un autre ton, on ne va pas réquisitionner tous les lieux pour mettre les gens à l'abri. Il y a aussi des histoires de bon sens. Moi, je travaille dans le bâtiment depuis 20 ans, plus de 20 ans, et 20 ans maintenant à mon compte. J'ai mené des projets de construction en neuf.
Oui. Ah. Il est là. Vous avez mené des projets de construction en neuf et, pardon, ça
le lobby anti-clim vient d'intervenir.
Et en rénovation.
D'accord. Et vous avez climatisé?
Comment?
Et vous avez climatisé?
À la demande des clients, mais je ne suis pas forcément pour.
Pourquoi?
Il y a d'autres systèmes.
Parce que ça aggrave aussi le réchauffement climatique, en fait. Tu peux faire ce que tu veux, mais.
Et surtout, monsieur,
Jean-Marc,
Jean-Marc, il dit qu'il habite dans une longère. Quand t'es dans une longère, t'as pas besoin de climatiser, justement. Ouais. Il y a des méthodes.
Allez-y. À Paris, ça va être difficile.
Pas au Moyen-Âge, il est climatisé.
Allez-y, Jean-Marc.
Mais je suis tout à fait d'accord avec Barbara, notamment avec Charles. Les vieux bâtiments, voilà, faut apprendre à les respecter et les laisser vivre. Effectivement, il n'y a pas besoin de les isoler, les surisoler. Et. Besoin de les climatiser. Il y a une
mais peut-être qu'on les a surisolés, mon cher Jean-Marc, parce que la priorité c'était qu'on chauffe moins l'hiver. Donc on les a surisolés, et oui. C'est peut-être ça l'erreur.
Ah ben c'est ça l'erreur. On les a privés effectivement de il a fallu les rendre étanches. Voilà. Il y a des tests en fin de construction où il y a quelqu'un qui vient, qui remplace votre porte de maison et qui met la maison sur pression pour vérifier qu'il n'y ait pas de déperdition. Mais à côté de ça, il n'y a eu aucun effort sur... Alors, il y a des systèmes. Moi, j'ai fait une formation pour pouvoir effectivement établir les attestations RT 2012. À l'époque, j'ai arrêté, tout simplement parce que c'est des histoires de bon sens, qu'on mette des casquettes, qu'on nous autorise aussi, au niveau architectural, à ouvrir un peu les chakras des administrations.
Ouais, c'est ça.
Je bataille avec les ABS.
Ouvrir les chakras des administrations, j'aime bien votre expression. Un peu.
Ah bon?
Vous trouvez?
Oui, bah, je peux vous garantir, je me bats pas tous les jours, mais régulièrement, avec des services d'urbanisme de communautés de communes, les ABF, je vous en parle pas.
Chacun doit justifier sa fonction, donc chacun.
Les bâtiments de France et autres, quoi, bien sûr.
Oui,
bien
exactement. Sûr, et il y a des règlements, enfin, on parle de PLU, etc. Et puis en plus, les ABF, ils ont droit de vie et de mort sur tout projet. Ouais. Si un ABF dit non, je ne veux pas de Vélux chez vous, vous n'aurez pas de Vélux.
C'est dingue.
Mais vous voyez, c'est là où c'est quand même décevant que Monsieur Brossa perde du temps et de l'énergie à défendre une loi qui n'a aucune chance de passer, alors qu'il devrait plutôt se retourner vers les administrations, dire qu'est-ce qu'on peut simplifier, comment on peut changer les choses. Et c'est pas que Brossa, mais c'est du maire général, la classe politique. C'est au lieu de nous pondre des lois et rajouter des lois aux lois, il faut au contraire assouplir.
Mais non, parce que
je serais curieux de savoir, par exemple, tu vois, si tous les logements qui ont été construits récemment, je pense notamment à ceux du village olympique, autour dans le 17e arrondissement là et vers Saint-Denis, il y a eu tout un tas de logements neufs qui ont été construits
vers la chapelle. Ouais.
Je serais curieux de savoir si la clim a été prévue dans
pas
ces,
la clim, mais ils ont dû.
Logements.
Je crois qu'ils avaient fait des fenêtres un peu adaptées à la chaleur.
Oui, mais non. Souvenez-vous, le village olympique qui accueillait les athlètes pendant les JO, il n'y avait pas de clim parce que la mairie avait de Paris avait dit non.
Voilà.
Ce qui fait que les athlètes ont acheté leur propre clim.
Voilà,
parce qu'ils allaient sportifs, ils avaient quelque chose, c'était au mois d'août, ils avaient besoin de se rafraîchir, et donc, ils avaient acheté leur propre clim. Mais parce qu'on était dans l'idéologie.
Encore une fois, la clim, tu peux l'acheter, tu peux l'installer, et si la température cet été-là, elle est bonne, tu l'utilises
pas.
Oui,
mais pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a clim et clim, c'est-à-dire que les clims portables consomment quand même plus d'électricité.
Oui, c'est en d'abord.
Et en plus, chacun fout son tuyau. Je vais vous dire, moi j'ai mon bureau.
Il n'est pas climatisé.
Mais il se trouve, la fenêtre donne sur la clim de quelqu'un qui est en dessous.
Et donc, tu prends toute la chaleur.
Et donc, je prends la chaleur du voisin du dessous. Bon.
C'est pour
avec
ça
qui je m'entends mal en plus.
Il faut des clims collectives.
Et donc, alors que si tu mets une clim collective, D'abord, en fait, ça consomme moins par clim, par personne, ça consomme moins d'électricité.
C'est un vieil immeuble ou pas ?
Et oui, c'est un vieil immeuble.
Donc tu peux pas le faire.
Non, mais c'est pour ça que je te parle des logements neufs.
Oui, oui.
Dans les logements neufs, je pense que maintenant, par défaut, en France,
clim réversible.
Oui, je
remercie Jean-Marc d'avoir été avec nous. On va conclure notre discussion avec Yvan. On va partir dans le Gard. Bonjour, Yvan.
Oui, bonjour.
Bonjour. Ça vous fait sourire, là. Vous avez un peu de sourire dans la voix. Pourquoi, Yvan ? Dites-moi.
Oui, d'abord parce que je suis ravi de vous avoir, parce que je vous écoute tous les matins. Et que c'est souvent, très intéressant. Et en fait, moi, je voulais témoigner sur les personnes âgées, parce que moi, j'ai une maison d'hôtes. Je suis d'origine belge, mais ça fait 28 ans que je suis dans le sud de la France. Mmh. Et il y a 3 mois, j'ai fait venir ma maman, qui a 86 ans, qui était à Bruxelles. Et alors c'est pas uniquement une question de chaleur, même si en Belgique il fait très très chaud aussi maintenant, et il faut savoir qu'en Belgique le prix de l'électricité c'est le double de la France, double, et donc elle avait du mal à se chauffer en hiver. Et donc je l'ai fait venir chez moi, mais aussi parce qu'elle était très seule. Et donc je lui ai retapé une petite dépendance de ma maison où j'ai bien entendu installé une clim réversible. Et elle revit. Elle revit tout simplement.
Voilà, elle revit. Voilà, c'est ça. Elle non seulement elle respire du point de vue de la température, mais elle s'est resociabilisée, quoi, en plus, c'est ça.
Absolument, parce que tous les jours elle voit les clients, et puis à nous, j'ai 2 chiens, j'ai des poules, j'ai un chat. Elle
donc vous en appelez à la responsabilité individuelle, oui, aussi des gens, quoi, Yvan.
Toujours demander
ça
aux autres.
Mais oui, et c'est nous on les case, les vieux. C'est voilà. Moi, ma femme est française, mais d'origine sénégalaise. Ça la dépasse. Elle travaille dans un EHPAD, et elle dit, elle est atterrée par la manière dont les enfants, en grande majorité, se conduisent avec leurs parents, quoi.
C'est-à-dire que on abandonne un peu les personnes dans les EHPAD. Et ça va pas s'arranger dans un pays qui vieillit.
Mais
par contre, quand vient le moment du notaire, là, tout d'un coup, tout le monde se rappelle qu'on a de la famille.
C'est sûr que
c'est logique,
c'est intéressant. Votre femme qui est d'origine sénégalaise, c'est pas du tout la culture.
Mais non, là-bas, les enfants, vivent ensemble. Les oncles, les tantes vivent ensemble.
Il se fait que j'imagine bien que dans cette famille ça doit être plus compliqué. Il se fait que ma maman, j'ai de la chance, elle est pas envahissante, elle est pas donc c'est facile de l'avoir chez nous. Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des parents qui a son âge soit plus difficile.
Oui, pardon, mais vous avez la chance de vivre dans une grande maison, etc. Dans les villes, c'est plus compliqué. Ouais. Dans les petits appartements, d'accueillir les aînés. Hein.
Y a la cave.
Ah, voilà.
Tu aménages un peu, alors, tu mets un ventilateur.
Alain Marchal, de toute façon, lui.
Avec le Wi-Fi, le signal, il descend.
Il aime pas les vieux, Alain Marchal. Ouais,
je pense à tes parents qui nous écoutent.
Mais attends. Non, mais sans
plaisanter. Ouais, comme ça, au moins.
Ils finiront dans la cave.
Ils savent ce qui va leur arriver.
Ils savent,
Gérard. Désolé.
Mon grand-père, quand il faisait sa sieste à Marseille, et je peux vous dire, moi, je me rappelle quand j'étais petite, les étés à Marseille, t'avais largement du 40, 42, 43. Mon grand-père, il allait faire la sieste à la cave. Et il était à la fraîche, à la cave.
C'est ça, mais des fois il revenait bourré, donc je sais pas trop. La cave, c'est
non, il revenait pas bourré.
Ça tape dans la gourde. Vider la cave.
Yvan,
ici dans le sud, ça ne suffit pas les caves. Hein. C'est une vieille maison en pierre, donc ça garde bien la fraîcheur, mais malgré tout, il y a rien à faire.
Vous avez combien?
Il fait très chaud là.
Mais dites-moi, Yvan.
Il fait 40 là.
Yvan, vous avez une maison d'hôte dans le Gard. Comment s'appelle-t-elle? Tiens, si on veut faire une étape chez vous.
La Bastide de la Madeleine.
Merci d'avoir
pas
été
du tout pris l'accent du Gard, hein.
Un petit peu. Ouais, mais je peux prendre le belge aussi, hein.
Et bravo à la Belgique d'avoir éliminé les États-Unis. Équipe de la triche.
J'étais devant la télé à 2h du matin. On s'est appelé avec tous les amis à 4h, 4h30. C'était magique.
Merci, Yvan.
Maintenant, on va faire les Espagnols.
Voilà, c'est ça.
Oui, maintenant, les Espagnols.
C'est qu'on vient de vous battre après.
C'est une belle affiche.
Et tiens, au moment où vous avez donné le nom de votre Bastide, là, en régie, tout de suite, ils ont regardé. Ils ont dit, c'est stylé chez Yvan. C'est très, très joli. Vieille pierre, piscine. Et
on vient ce week-end, Yvan.
Voilà, on va venir. Vous n'allez pas être déçus. J'espère qu'il y a du matos à la cave.
Oui, vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut dans le coin.
Merci Yvan d'avoir été des nôtres. À bientôt, merci.
Avec grand plaisir.
Salut Yvan. Canicule, doit-on réquisitionner les lieux climatisés, oui ou non? Alors, j'ai peu de doutes sur la réponse, mais on fait une petite vérification quand même. C'est un non à 78%. Et si les communistes, ils faisaient un score à 21, dis donc.
Il y a 21% de gens qui sont pour la spoliation.
Mais ils sont au second tour.
Mais spoliation des biens privés.
Mais parce qu'en France, on a cet esprit un peu communiste en nous.
Non, spoliateur, pas communiste, spoliateur.
Il n'y a que des candidats de gauche à la présidentielle.
Dans un instant, avec les GG, la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre. Ça a été chaud à l'Assemblée nationale hier. Alors, est-ce que c'est nécessaire pour les policiers pour qu'ils puissent se protéger ou est-ce que c'est leur donner un permis de tuer? On en parle au 32-16 avec vous. Il est 11h25.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, Bruno Poncet, Charles Consigny, Barbara Lefebvre. Parlons de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale avec la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre. Sont les députés de gauche hier à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle qui ont dénoncé, parce que l'expression n'est pas de moi, le potentiel permis de tuer.
Alors au départ, c'est un texte qui a été soutenu par le député LR Éric Pauget. Et initialement, il prévoyait une présomption de légitime défense des forces de l'ordre. Alors ça a été réécrit par le gouvernement. Ce texte prévoit désormais que lorsqu'ils font usage de leurs armes, policiers et gendarmes sont présumés avoir agi dans le cadre de la loi. Voilà ce qui a été voté et adopté hier par l'Assemblée, avec le soutien donc du gouvernement. Les députés Renaissance, Modem, Horizon et LR ont voté pour, ainsi que les députés UDR et RN, et la gauche a voté contre. D'ailleurs, ça a été très mouvementé à l'Assemblée nationale parce que Assa Traoré était dans l'hémicycle avec des militants. Alors, ils ont un peu bordélisé l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, sur X, a dit « Arrêtons les fantasmes ». Dès la première minute, dès lors que les circonstances ne sont pas réunies, n'importe quel procureur pourra toujours renverser cette présomption. Alors, est-ce que c'est un permis de tuer ou au contraire, ça va permettre aux forces de l'ordre de pouvoir agir sans avoir cette peur au ventre de dire est-ce que oui ou non j'ai le droit de prendre mon arme.
Bruno Poncet, permis de tuer ou pas ?
Je pense pas qu'ils aient la peur au ventre. Bah, je trouve que, mine de rien, on va un peu loin parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frein à l'usage de l'arme qui peut être fait d'un point de vue psychologique en te disant, bah écoute, faut quand même. Et là, quand tu dis dans le cadre de la loi, mais normalement, ça devait déjà être le cas avant. Or, aujourd'hui, on a quand même des cas où des policiers se retrouvent dans les tribunaux parce qu'en fait, ils ont enfreint le cadre de la loi, vu que sinon, ils seraient pas au tribunal. J'ai vu que d'ailleurs, sur l'affaire de Naël, le policier va certainement, il y a tout pour faire un procès. C'est ce qui a été dit il y a pas longtemps. Donc, en fait, on est là-dedans où t'as certainement des cas où le cadre de la loi a été bafoué. Par contre, si là tu poses cette loi-là sur la table, ça veut dire qu'à un moment donné, les policiers, psychologiquement, et puis même par leur formation, se diront, bah, de toute façon, je tire, j'ai le droit. Or, des fois, ça peut être disproportionné. Bah, moi, je trouve qu'effectivement, on n'est pas loin du permis de tuer, mais surtout, moi, j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, et c'est les policiers eux-mêmes qui le disent, on est face à des agents, des gardiens de la paix, qui obtiennent l'examen avec une moyenne d'entre 5 et 7. Avec des gens qui ont par année, par an, peut-être des fois une seule séance de tir. L'autre fois, on a encore eu un policier municipal qui expliquait qu'il avait plus d'exercices de tir qu'un policier national. Donc ça veut dire qu'on donne encore des droits, je pense, à des gens qui sont armés et qui malheureusement n'ont pas forcément l'utilisation. Alors peut-être pas correct, mais en tout cas, ils n'ont pas l'entraînement et ils n'ont pas non plus peut-être le cadre légal qui va leur permettre à un moment donné d'avoir un frein dans leur tête, de se dire si je tire, je vais tuer quelqu'un. Est-ce que derrière, c'était obligatoire ou il y avait peut-être une solution de tirer peut-être plus bas? Voilà, parce que le problème, il est là aussi. Des fois, on a quand même des tirs sur des délits de fuite et tout. Et moi, j'entends, quand quelqu'un veut t'écraser en voiture, il est quand même normal.
Oui, mais après, c'est passé encore au
gouvernement. Mais
toujours...
il
tire dans les pneus.
Oui, mais
ça sert à rien de tirer dans les pneus.
On regardera quand même si la présomption de la gym des défenses a été respectée.
Oui, mais Olivier, dans le truc de la loi, il est quand même marqué qu'en fait, pour enclencher le processus après, derrière, de vérification et tout, il faut que, soi-disant, les conditions ne soient pas réunies. Mais regarde déjà aujourd'hui.
Oui, il faudra prouver que.
Oui, mais aujourd'hui, déjà, t'as la police des polices c'est un cas sur 100 qui va au tribunal, alors qu'il y a quand même des fois des cas.
C'est peut-être un cas sur 100 parce que il y a que un cas sur 100 qui mérite d'aller devant le tribunal, parce que le reste du temps, il est démontré que l'usage de l'arme par l'agent de la force de l'ordre est légitime. Aux États-Unis ou en Turquie, par exemple, en Turquie, c'est le principe de la protection légale de l'agent pendant ses interventions. Et aux États-Unis, c'est la doctrine de l'immunité qualifiée qui a été réaffirmée à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour suprême. Donc c'est pas aux États-Unis par exemple, c'est pas une décision de cow-boy du Far West. Ça c'est ce que les gens aiment raconter. Non, c'est de la jurisprudence. C'est un certain nombre d'affaires qui sont arrivées jusqu'à la Cour suprême et qui montrent que il peut y avoir une doctrine de ce qu'on appelle l'immunité qualifiée.
Les États-Unis regorgent de bavures policières.
Ah ben je suis d'accord avec toi, mais en France, la France ne regorge pas de bavures policière.
Je rappelle,
on a une police tout à fait républicaine. En revanche, Bruno a raison sur un point. Nos policiers nationaux ne s'entraînent pas assez. Alors qu'en face d'eux, ils ont des gens qui s'entraînent beaucoup. Les narcos, les criminels. Alors eux, ils s'entraînent non-stop. Donc excusez-moi, encore heureux que la police nationale soit là pour interrompre les criminels qu'elle a en face d'elle. Je rappellerai juste un point concernant Madame Traoré. Que la Cour de cassation en février 2026 a confirmé le non-lieu des gendarmes. Alors il y a peut-être un moment qu'elle mette ses loup-boutins puis qu'elle aille faire des concerts de rap parce que c'est sa grande activité, ça et faire des cérémonies de commémoration de plaques comme à Beaumont-sur-Oise. C'est une honte absolue d'avoir osé mettre une plaque commémorative dans les rues de Beaumont-sur-Oise. Mais enfin bon, c'est mairie élue par la Nouvelle-France, donc voilà. Mais la justice est passée, Madame Traoré, et c'est son droit le plus absolu, a utilisé tous les recours. Maintenant, c'est bon, c'est terminé. La Cour de cassation a dit non-lieu, c'est non-lieu. Qu'elle arrête de bordéliser, qu'elle s'occupe de ses manifs, là, avec son pas de paix, pas de je sais pas quoi, là, et ses fresques qu'elle nous badigeonne de partout
Joron,
dans les rues.
Qui est secrétaire général du syndicat de police Unité, qui est avec nous. Bonjour, monsieur Joron.
Bonjour.
Vous en aviez besoin de cette loi ou pas?
Clairement, oui. Clairement oui, on en avait besoin. Alors on en avait besoin, on n'en avait pas besoin dans sa forme originelle que nous on n'aurait pas ni porté ni supporté entre guillemets ni promu, à savoir la présomption de légitime défense. C'est pas du tout ce qu'on voulait, tout simplement parce que la légitime défense c'est un article du code pénal qui s'applique à tous les citoyens et qui correspondait pas exactement à l'action policière ou professionnelle. Nous on avait besoin en effet de renforcer un article, c'est celui du code de sécurité intérieure, qui prévoit justement l'usage des armes. Et cet article-là, qui date de 2017, malheureusement, n'aurait pas dû être précisé. Et c'est en fait, c'est ce qu'on a vécu depuis, qui faisait et qui a fait qu'on a besoin de cette précision, de dire quand un policier use de son arme, parce qu'on a la permission de la loi au travers du code pénal, parce qu'on est mandaté pour protéger les citoyens, on doit être considéré comme avoir agi de manière présumée dans le cadre qui est prévu.
Parce que la délinquance a changé, parce que les refus d'obtempérer sont de plus en plus nombreux aussi, monsieur Joron.
Bien sûr, nous on veut, et je le répète, l'objectif c'est pas une recherche d'impunité, l'objectif c'est pas une justice d'exception, l'objectif c'est une justice adaptée. Je vous le redis, en fait c'est simplement du bon sens et de la cohérence. Les policiers, ils ont mandat pour protéger la société et les citoyens. Ils ont la possibilité d'aller jusqu'à l'ultima ratio, à savoir l'utilisation d'armes létales, savoir leur arme à feu. Ça c'est la permission de la loi, c'est prévu dans la loi. Donc vous vous rendez compte que vous leur donnez cette permission-là, cette possibilité-là, dès lors qu'ils estimeront nécessaire de devoir l'utiliser, et dès qu'ils le font aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que 9 sur 10, ils sont considérés comme suspects. Et c'est ça le problème. Ce ne sont pas des suspects, ce sont des agents de l'État.
Alors, Charles Consigny, l'avocat, voulait réagir. Charles.
Moi, je soutiens nos forces de l'ordre. Je pense qu'on a besoin d'eux, et que dans l'ensemble, évidemment, ils font très bien leur boulot. J'ai pu l'expérimenter moi-même sur un sujet tout à fait mineur, et je vois bien qu'ils sont au contact de réalités très difficiles. Néanmoins, j'observe que il y a aujourd'hui dans la classe politique une espèce de fanatisme du policier. Aux yeux de l'homme politique, qui du centre jusqu'à l'extrême droite. Alors je parle pas des insoumis qui eux au contraire diabolisent les policiers de façon ridicule, mais sinon on a l'impression que le policier est vraiment une espèce de créature divine à laquelle il faudrait maintenant accorder absolument toute latitude et effectivement faire allégeance, venir à leurs manifestations, signer dès demain tout ce que demande leur syndicat, etc. Moi je suis désolé, mais on n'est pas au Venezuela, si vous voulez, on n'est pas encore sous Bukele, au Salvador. Donc cette présomption de légitime défense, moi je pense qu'elle est absurde. Inverser la logique du contrôle, comme on va le faire, et donc considérer que par définition un policier, quand il aura tiré, sorti son arme et tiré, il l'aura fait à bon escient, c'est faire peser sur les éventuelles victimes du tir la charge de la preuve, et donc en fait, en réalité, c'est donner un blanc-seing aux policiers. Et donc je pense que c'est dangereux et que le régime actuel, pour moi, il est digne d'un état de droit, il fonctionne bien, et en réalité, il est même assez protecteur des policiers.
Alors, monsieur Juron, vous pouvez répondre, allez-y.
Alors, écoutez, premièrement, je pense pas que les politiques nous font. Alors, si certains politiques nous font allégeance, je vous invite vraiment à venir dans les commissariats pour voir l'état de la police aujourd'hui, surtout ceux qui la pratiquent au quotidien. Je peux vous assurer qu'entre les discours politiques, l'attention qu'on peut nous porter et la réalité du métier de policier aujourd'hui, je crois qu'il y a un gap énorme. Et moi, je reste pas juste à cette surface-là des messages politiques qui sont envoyés. Ce qui m'intéresse, c'est le quotidien de mes collègues. Le quotidien de mes collègues, et je vais un peu plus loin. On va parler quand même de texte. Je pense que c'est important, pardon de vous avoir coupé, mais c'est pas une présomption de légitime défense. C'est extrêmement important de le redire et de le répéter. Ce n'est pas une présomption de légitime défense.
Alors ça rajoute quoi en fait, pour qu'on comprenne bien?
Ça rajoute simplement le fait que, parce que j'entends de dire Monsieur Consigny, Maître Consigny dit on va avoir un blanc-seing. Mais Monsieur Consigny, ça vous dérange pas? Maître Consigny, ça ne vous dérange pas que les policiers soient suspectés? Dès lors qu'ils ont usé de leur arme, est-ce que ça vous paraît logique?
Excusez-moi, ce sont les seuls qui ont le droit d'user de leur arme. Donc effectivement, quand ils usent de leur arme, j'estime que ça doit être contrôlé.
Mais en fait, qu'est-ce qui va empêcher? Enfin, vous connaissez, le code pénal bien mieux que moi. Il y a quand même déjà des cas d'exception énormes, et notamment des cas de présomption de légitime défense, notamment quand on vous introduit de nuit dans votre domicile ou qu'on vient piller un établissement. Vous savez très bien qu'il y a des cas de présomption de légitime défense. Et ces cas-là, parce que la présomption, elle n'est pas irréfragable, elle va tomber dès lors qu'il y a un élément concordant qui laisse présager la commission d'une infraction, et la présomption va tomber d'un coup d'un seul.
Donc en fait, comment fait la victime, excusez-moi, ou les proches d'une victime par exemple, pour prouver que si elle s'est fait tirer dessus, le policier était dans son bon droit? On inverse quand même la logique.
Vous pensez qu'il n'y aura donc jamais d'enquête? Il y aura une enquête, il y aura des témoins, il y aura...
Exactement. On voit bien où elle est. Charles, il y a une enquête dans un sens, tu peux la faire dans l'autre aussi.
Excusez-moi de vous dire que les enquêtes en cette matière, elles sont quand même toujours extrêmement laborieuses. Elles avancent pas.
Non, je trouve que c'est pas digne.
Je trouve que ça nous fait basculer dans des... Je trouve que c'est une régression.
Merci, monsieur Juron, d'avoir été avec nous. Présomption de légitime défense pour la police. Est-ce que c'est nécessaire, oui ou non? On va regarder ce que vous en pensez.
J'entends pour, évidemment.
De quel côté est l'opinion publique? On va voir. Voilà. Oui, nécessaire, 84%. Dans un instant.
Il faut s'adapter à la nouvelle criminalité.
Avec nous, Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.